tonto.
Le vendredi, le métal fait son show sur Bike FM. Salut à tous, bienvenue dans l'émission Check Me Load, eh bien qui chaque semaine vous propose un petit tour d'horizon des sorties du moment. On a fait pas mal le tour ces derniers temps de ce qui est arrivé pendant les mois de grandes vacances en juillet, août. Aujourd'hui, il est temps de passer à ce qui nous tombe dessus au mois de septembre. Il y a notamment beaucoup de choses qui paraissent aujourd'hui et il y a de très bonnes choses là qui arrivent soit aujourd'hui, soit la semaine prochaine. On va revenir également sur un gros morceau qui est paru vendredi dernier. Je vais vous expliquer pourquoi je voulais pas présenter à ce moment-là. En tout cas, pour ce qui est des styles que l'on va survoler aujourd'hui, il y en aura un petit peu pour tous les goûts, puisque ça va aller du métal un peu indus jusqu'au thrash en passant par le death, le grind. Il y en aura vraiment pour tout les amateurs de métal de tout poil. Et bien sûr, à la fin de l'émission, on retrouvera la rubrique Sortez Cover. Aujourd'hui, on va rendre hommage à Jimi Hendrix, puisque ça fait 50 ans aujourd'hui que le grand Jimi nous a quittés. Voilà. Il est temps de lancer les hostilités et donc exceptionnellement, hein, comme je l'ai un peu expliqué, la sortie incontournable de la semaine, c'est pas une parution de ce jour, mais une de vendredi dernier du 11 septembre, et il s'agit du nouvel album de Marilyn Manson. Alors j'ai pas souhaité le programmer le jour de sa sortie, enfin j'ai pas souhaité, d'abord parce que pour vous être tout à fait honnête avec vous, je ne l'ai eu entre les mains qu'après l'émission et je voulais pas voilà en parler sans l'avoir écouté. Donc voilà, ça y est, là j'ai eu une semaine pour bien m'en imprégner de ce We Are Chaos qui est le 11e méfait studio de notre Antéchrist. Mais avant de s'intéresser à ce nouvel opus, retour sur l'origine du mal. Donc la carrière de Marilyn Manson, elle commence en Floride à Fort Lauderdale en 1989, donc plus de 30 ans maintenant, hein, puisqu'on est en 2020. Et donc, il va débuter sa carrière avec un groupe qui s'appelle The Spooky Kids. Alors, depuis, Manson a vu graviter autour de lui de nombreux musiciens qui, au début du groupe, il faut le savoir, ils se voyaient tous attribuer un pseudonyme qui était composé d'un prénom qui évoque un sex symbole féminin et d'un nom de famille qui lui évoque un tueur en série, ben, comme leur leader, hein, Marilyn Manson, une tradition qui s'est finalement perdue avec le temps. Marilyn Manson, vous le savez tous, c'est la combinaison de Marilyn Monroe et de Charles Manson. Donc son univers à notre chère Marilyn, alors c'est très très large, très très vaste, c'est un mélange de metal indus, de glam metal, de shock rock, de metal gothique et puis aussi bah, de heavy metal. En fait c'est selon les périodes et selon les albums, hein, ça peut beaucoup varier. En 30 ans de carrière, il a sorti 11 albums studio. Il y a eu aussi 2 EP, et ce qui est assez bizarre, c'est qu'il a seulement sorti un live dans toute sa carrière, et qui est assez vieux, puisqu'il me semble qu'il doit dater du début des années 2000. Alors s'il fallait retenir que 2 albums, pour moi ce serait sans conteste. D'abord Antichrist Superstar, qui est sorti en 96, qui est pour moi le chef-d'œuvre absolu de Marilyn Manson. Et puis le deuxième, ce serait Mechanical Animals, qui est sorti 2 ans plus tard, en 98, qui était vraiment... qui partait dans une nouvelle direction, mais qui est hyper abouti et qui m'a beaucoup marqué. Ces deux albums qui ont été certifiés disques de platine et qui ont fait de Marilyn Manson le pire cauchemar de l'Amérique puritaine et bien pensante. Hein. Alors, c'est vrai que si ces derniers temps, le révérend Manson s'était montré plutôt convaincant en mode studio avec les albums The Pale Emperor en 2015 et Even Upside Down en 2017, la bête de scène qu'il était autrefois était quand même devenue sur scène un personnage assez pathétique avec des prestations qui ont déçu beaucoup beaucoup de fans. Voilà, il y avait toujours une phrase qui faisait que le concert était raté ou écourté. Enfin bon, autant dire que tout ça avait laissé un goût assez amer à ses fans qui redoutaient quand même la fin imminente d'un Manson qu'on aurait pu croire vide de toute sa créativité, devenu une caricature de lui-même. Mais c'est bien mal le connaître, Marilyn, qui, tel un seigneur du chaos, a profité du bordel ambiant et de la décadence de l'humanité pour modeler cette nouvelle œuvre qui est incandescente, torturée, tortueuse aussi, qui a été coécrite et coproduite avec un artiste country qui s'appelle Scooter Jennings et qui est presque devenu pour Manson l'équivalent de ce qu'a pu être Brian Eno pour David Bowie à l'époque de la trilogie berlinoise, donc au milieu des années 70. Bowie dont le fantôme plane parfois beaucoup sur ce We Are Chaos, qui est d'ailleurs pas sans rappeler l'album Mechanical Animals, hein, que j'ai cité un peu plus haut, qui lui aussi hein, s'inspirait beaucoup du travail de Bowie. C'est donc un 11e album très réussi que vient de dégainer Marilyn Manson, qui nous entraîne ici dans les méandres les plus sombres de l'âme humaine. Espérons maintenant que celui qui faisait frémir les comités de censure fasse un retour aussi éclatant en version live. Voici pour l'heure un extrait de We Are Chaos avec un morceau qui s'appelle Red, Black and Blue. C'est le morceau qui ouvre le disque et c'est tout de suite dans Check Me Load.
I can stick a needle in the horror and fix your blindness. See, I was a snake, but I didn't realize that you could walk on water without legs. Now I'm a bee, a king bee, and I will destroy every flower. And I will cover the earth in honey, and everyone will eat themselves. My eyes are mirrors. All I can see are gods on the left and demons on the right.
Suffering, get out of smoke and dance in the ashes. This
Red, Black and Blue de Marilyn Manson dans l'émission Check Me Load, votre émission métal. Il s'agit d'un extrait de son nouvel album qui s'appelle We Are Chaos, qui est paru vendredi dernier. Et bah, si vous avez aimé les anciens albums de Manson, cet album, je pense, devrait vous plaire. Pareil, si vous avez apprécié les deux derniers, il sait encore se réinventer, notre ami Marilyn, maintenant, à voir si sur scène il va faire aussi bien qu'en studio et réconcilier un petit peu ses fans avec les dernières prestations qui n'ont pas été, elles, formidables. Mais bon, on peut pas être tout le temps parfait. Il est avant tout un être humain, même si c'est Marilyn Manson, hein. On passe maintenant à quelques sorties de ce 18 septembre. Et la première, elle nous vient directement d'Angleterre. Il s'agit du nouvel album de Napalm Death. Un album qui s'appelle Throes of Joy in the Jaws of Defeatism. Donc, Napalm Death, c'est un groupe qui a été fondé à Meriden. Ça, c'est tout près de Coventry. Qui existe depuis fort longtemps puisque c'était en 1981. Alors, c'est un groupe de grindcore. Genre musical dont Napalm Death, d'ailleurs, est un des pères fondateurs, hein, avec l'album Scum qui est sorti en 87, qui est d'ailleurs considéré comme un des tout premiers disques de l'histoire du grind. Et pour ceux qui se demanderaient qu'est-ce que c'est que le grindcore, et bien en fait c'est une branche radicale du métal qui est issue à la fois du crust et du punk hardcore, avec soit des textes qui sont politiquement très engagés comme Napalm Death, soit des textes qui vont être plus tournés vers le gore, l'humour, un petit peu trash, la pornographie, comme par exemple Analcunt. Mais bon, on va revenir à Napalm Death, on va pas s'étendre sur le sujet du grind qui serait un petit peu long. Alors, faut quand même souligner que malgré un line-up qui va changer assez constamment jusque dans les années 90, Napalm Death va jamais cesser finalement de sortir des disques, de tourner. Au milieu des années 90, ils vont faire une brève incursion dans le monde du death, comme vont en témoigner des albums comme Fear, Emptiness ou Despair. Et puis finalement, bah, au début des années 2000, ils vont revenir à un bon vieux grind d'antan, auquel ils vont mêler quand même quelques petites sonorités nouvelles qui vont être héritées d'une période death, et ils vont donc donner naissance à un death grind abrasif, sans concession, comme on va pouvoir l'entendre sur les excellents Utilitarian paru en 2012, ou encore Apex Predator Easy Meat paru en 2015. Et donc après le très réjouissant Coded Smears and More Uncommon Slurs qui date d'il y a deux ans, en 2018, qui proposait une pile de rareté, voici cette fois-ci du sang frais, hein, avec Throes of Joy in the Jaws of Defeatism. C'est le 16e album du combo qui est mené depuis 30 ans par Barney Greenway. Alors, c'est un disque qui a été composé par le bassiste Shane Humbery. Et donc cette nouvelle déflagration sonore de Napalm Death manque pas non plus d'innover, sans pour autant dépayser les fans. C'est-à-dire qu'on y retrouve une recette habituelle, donc composée de grind, de death, de punk, d'indus, de doom. Et si tout ça s'est respecté à la lettre, il y a un nouvel ingrédient qui est plutôt surprenant, qui donne du piment à l'ensemble, c'est l'ajout de sonorités indie rock qui sont très 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 80s et qui vont certainement plaire par exemple aux fans de Killing Joke. Et puis il faut noter aussi que la prod, elle est beaucoup plus froide, beaucoup plus chirurgicale qu'elle ne l'était sur l'album précédent. Elle est signée par Russ Russell et le résultat de tout ça, c'est un album redoutable qui est composé de 12 titres brutaux. Throes of Joy in the Jaws of Defeatism, c'est un nouveau coup de maître pour Napalm Death qui reste au sommet du grind. Donc, il est temps maintenant d'éloigner les oreilles sensibles de vos postes de radio, puisque voici un extrait de ce nouvel opus. Le morceau s'appelle Backlash Just Because. Voici tout de suite Napalm Death. We'll be right back. Backlash Just Because de Napalm Death sur Bike FM. Vous écoutez l'émission métal Check Me Load. Il s'agissait d'un extrait du nouvel album du groupe qui s'appelle Throes of Joy in the Jaws of Defeatism, qui paraît aujourd'hui. Donc un 16e album pour le groupe de Coventry, groupe Napalm Death, les papas du grindcore, qui sont encore dans la place et qui nous en mettent encore plein les oreilles. Pure réussite donc que ce nouvel opus de Napalm Death qu'il ne faut surtout pas rater. Du grindcore au trash, ma foi, on n'est pas si éloigné, même si à côté le trash peut paraître bien gentillé. Et aujourd'hui sort le nouvel album de Eason, un album qui s'appelle Empire of the Blind. Alors là encore, on est face à un groupe relativement ancien, un groupe qui nous vient de San Francisco et qui a été créé dans les années 80, en 84 précisément, sous l'impulsion à l'époque du guitariste Lee Altus, qui est à l'heure actuelle le seul membre historique encore présent, même si le chanteur David White est là depuis très très longtemps, puisque en fait il a rejoint Eason seulement un an après sa formation, donc c'est presque un membre historique quand même. Donc là on est sur du thrash metal traditionnel, quoique pas tant que ça, puisque alors Eason, c'est vrai que c'est un groupe qui est issu de cette fameuse baie de San Francisco, qui est considérée comme un berceau du thrash, puisque cette baie de San Francisco, elle a vu naître dans les années 80 des formations aussi prestigieuses que Metallica, Megadeth, faut-il rappeler, Testament, Exodus. Et donc la petite particularité de Eason par rapport à ces groupes-là, c'est de mélanger à son thrash quelques éléments issus de du rock progressif et puis aussi du speed, mais ça c'est un petit peu plus, on va dire, conventionnel. Donc comme pas mal de groupes de cette époque, Eason va connaître un début de carrière extrêmement prometteur, et l'arrivée des années 90, ça va stopper tout ça tout net, hein, puisque vous le savez, la décennie 90 c'est celle du grunge, ça va avoir un rude effet sur le monde du heavy et du thrash qui 10 ans avant était en plein apogée et qui tout d'un coup vont devenir dépassés, voire pour certains ringards. Alors malgré le succès colossal quand même de quelques poids lourds, hein, on a les Guns N' Roses du côté heavy qui vendent des tonnes de disques à ce moment-là, et puis côté trash, on a quand même Metallica qui reste bien placé, on a Sepultura qui arrive, mais bon voilà, quand même une grosse partie de la scène va en pâtir de cette vague grunge, et donc malgré tout Eason s'en relèvera. Mais avant, alors ce qu'il faut savoir, c'est que dans les années 80, le groupe va sortir un premier album en 87, un album qui est assez remarqué, qui s'appelle Breaking the Silence. Et puis il sera suivi en 91 d'un deuxième album très réussi qui s'appelle Victim of Deception. Mais ça va demeurer finalement l'ultime projection du combo avant très très longtemps, puisque après quelques épreuves de la vie, dont des deuils, les membres du groupe vont pas arriver à se remettre sur les rails. Ils vont marquer un hiatus qui va durer jusqu'en 2001. Pour ce qui est du live, et jusqu'en 2010 même pour ce qui est de la partie studio, puisque la sortie de l'album The Evolution of Chaos ne va arriver qu'à ce moment-là. C'est un disque qui va recevoir un excellent accueil. Du coup, on aurait pu imaginer que Eason profiterait de ce retour réussi pour retrouver rapidement la voie des studios, pour mettre en boîte un quatrième album, et c'est vraisemblablement ce qu'ils avaient envisagé, sauf que ils ont dû renoncer à leur plan, à cause notamment d'un emploi surchargé de Lee Altus et de Craig Unlen, les deux guitaristes, qui étaient très occupés par leur poste au sein d'Exodus, qui occupaient vraiment tout leur temps à ce moment-là. Donc, il sera finalement écoulé une décennie entre The Evolution of Chaos et Empire of the Blind, qui paraît aujourd'hui, qui est d'ailleurs la suite logique de ses prédécesseurs. Il a été composé presque en intégralité par Craig Unlen, et c'est un album qui démarre en effet là où on avait laissé le combo. C'est-à-dire que tout en repoussant les limites de l'agressivité, de la mélodie, ce nouvel opus va s'inscrire dans cette lignée trash mélodique et technique qui a forgé l'identité de Eason, avec une belle richesse de composition qui force toujours autant le respect. Donc là, on a un océan de puissance musicale, avec des solis fabuleux, des lignes de chant qui sont très entraînantes, une science du riff qui est assez percutante, et tout ça, ça c'est autant de moteurs émotionnels qui font que Empire of the Blind, c'est un candidat sérieux au concours des meilleurs albums trash de l'année. En voici d'ailleurs tout de suite un extrait avec un morceau qui s'appelle The Blight. Voici tout de suite Eason sur Bike FM. We'll be right back. Titans, groupe trash de San Francisco, avec un extrait de son nouvel album Empire of the Blind, paru aujourd'hui donc, et le morceau qu'on vient d'écouter, c'est The Blight. Voilà pour ce groupe né dans les années 80, qui a eu un gros arrêt durant les années 90 et qui là revient en force depuis quelques temps, et ça fait plaisir parce que en plus voilà, c'est des gens qui ont pas eu le temps de faire carrière mais qui rattrapent le temps perdu, et ils le font avec vraiment beaucoup de talent. Retenez bien leur nom, Titans. Je pense ne pas bien le prononcer, hein. Ça s'écrit H-E-A-T-H-E-N, comme pour en revenir à Bowie, un album de Bowie me semble-t-il. Allez, on va s'envoler du côté de la Scandinavie maintenant, on va s'intéresser au groupe Fintroll qui également sort aujourd'hui un nouvel album. Alors là, je vais pas bien le prononcer, c'est sûr et certain, puisque c'est un titre en finnois et que c'est une langue que je ne parle absolument pas, hein, je connais même pas les sonorités. Donc on va dire que ça s'appelle Vredesvavd. Voilà, ça vous donne une petite idée. En tout cas, Fintroll, c'est un groupe qui est originaire de Helsinki, qui existe depuis 97. Il a été créé sous l'impulsion du guitariste Somium, qui est un ex-Impaled Nazarene, et du chanteur Katla, qui... Alors, tous les deux, ils font plus partie de la formation, hein, puisque le premier, Somium, il est malheureusement décédé en 2003. Et puis, le deuxième, Katla, il a dû céder son micro à 2002 à cause de kystes sur ses cordes vocales, mais... Lui, il agit toujours dans l'ombre puisque il participe toujours aux compositions des albums. Donc, le groupe Fintroll, qui tient son nom d'une vieille légende finlandaise, a pour particularité de mélanger du black, du death, avec des éléments qui sont issus du folk local, dont le humppa. Alors, le humppa, c'est une variété finnoise de polka, et le tout est chanté intégralement en suédois. D'ailleurs, j'ai dit que le titre était en finnois, mais non, c'est du suédois, hein. Je vous ai dit une bêtise. Alors pourquoi du suédois, vous allez me dire, quand on est finlandais? Eh ben, c'est tout simplement que le chanteur d'origine était suédois, et du coup, c'est devenu une des marques de fabrique de Fintroll, même si Vress, le chanteur actuel, est pas suédois, mais bel et bien finlandais. Donc j'espère qu'il maîtrise bien la langue. Alors en ce qui concerne les paroles des morceaux, elles traitent principalement des légendes et des contes qui entourent le roi troll qui s'appelle Riffader. Ce roi troll, il a bien sûr une armée de trolls et ils combattent contre l'invasion chrétienne de leur terre. Entre autres, parmi les personnages récurrents des chansons, on trouve deux prêtres qui s'appellent Amund et Ketil. Dans les premiers albums, ils se retrouvent constamment aux prises avec les trolls pour finalement à chaque fois se faire battre et mutiler dans les pires conditions, hein. C'est un peu ça tout le temps qui les attend, ces deux prêtres. Donc, côté discographie, avec le disque qui sort aujourd'hui, elle se compose, celle de Fintroll, désormais de 7 albums. Ça faisait d'ailleurs un bon moment qu'ils avaient rien sorti, puisque le dernier opus en date, c'était Bloodsweb, c'était en 2013. Et dans mes souvenirs, c'était un album qui était plutôt réussi, avec même l'apport de quelques sonorités qui étaient jusqu'à présent inédites. Mais voilà, hein, aujourd'hui, un nouveau chapitre s'ouvre pour Fintroll, avec la parution de Vredesvavd. J'ai hâte d'avoir fini cette chronique, parce que le nom me fait souffrir, un opus qui est synonyme de retour aux sources, hein, pour nos trolls, qu'on retrouve plus furieux, plus affamés et plus méchants que jamais. Le ton, il est donné dès le titre du disque, puisque ça peut se traduire par le tissage de la colère, et c'est en quelque sorte un avertissement de ce qui nous attend une fois le bouton play enclenché. Ici, on retrouve le groupe qui est fort finalement de son héritage black, et puis qui est fort aussi de son attrait pour les arrangements symphoniques. Donc c'est un album qui s'impose directement comme un disque vigoureux, sans compromis, qui nous entraîne dans les fins fonds des forêts finlandaises, peuplées de trolls, prêts à nous attaquer. Avec Vredesvavd, Fintroll impose avec force et intensité son univers, mais aussi son identité. C'est un disque très réussi, qui pourrait même figurer parmi les meilleurs crus du combo. On va en écouter tout de suite un extrait avec un morceau qui s'appelle Ormfolk. Voici tout de suite Fintroll. Doink the train, black. les nouvelles aventures du roi troll à travers cet album Vredesvav de Finn Troll qui paraît donc aujourd'hui. On vient d'écouter le titre Hornfolk, donc voilà un extrait de ce nouvel opus qui nous entraîne dans les forêts de Finlande à la chasse aux trolls. Attention, ils sont toujours cachés là où on ne les attend pas et ils nous sautent dessus au moindre mouvement. Voilà pour nos amis de Finn Troll, donc voilà pour les amateurs à la fois de metal folk et puis bah si vous aimez tout ce qui est black, tout ce qui est death, ceci devrait vous plaire. Là, on était sur un morceau plutôt enjoué. Là, on va calmer tout le monde d'un coup et on va s'intéresser à un projet qui est paru le 4 septembre. Faut que je vous explique un peu tout ça parce que vous allez voir, c'est pas un inconnu qui est derrière. Le projet s'appelle N Minor et l'album s'appelle When the Cold Truth Has Worn Its Miserable Welcome Out. Donc, N Minor, c'est un projet originaire de la Nouvelle-Orléans, en Louisiane. Et si je vous dis métal plus Nouvelle-Orléans, et ben du tac au tac, vous allez me répondre Phil Anselmo. Et vous aurez raison parce que N Minor, c'est le nouveau et énième projet musical de l'ex-frontman de Pantera. Phil Anselmo qui sévit d'ailleurs actuellement dans pas loin d'une dizaine de formations, parmi lesquelles Dawn ou encore Phil H. Anselmo and the Illegals, dont le guitariste Steve Taylor est devenu l'homme qui a permis à Anselmo de concrétiser ce projet de longue haleine qu'est N Minor. Alors Steve Taylor, au passage, on peut dire que ça fait un moment qu'ils se connaissent avec Phil Anselmo, puisque c'est déjà lui, à un moment donné, qui tenait la basse au sein de Superjoint Ritual, une autre formation emblématique de la carrière de Phil Anselmo, dont l'histoire a pris fin très récemment en 2019. Mais revenons à N Minor, que Phil Anselmo qualifie de projet Depression Core. Alors, en effet, on y retrouve le chanteur dans un registre bien plus sensible et profond que d'habitude. Si vous suivez la carrière du bonhomme, vous savez qu'il n'est pas du tout du genre à faire dans la dentelle, et ben là vous risquez d'être surpris à l'écoute de N Minor qui, comme son nom le laisse un petit peu pressentir, en mineur, explore une facette plus sombre, plus grave que Phil Anselmo a hérité, cette fois-ci d'influences qui viennent plus du gothique des années 80. Et alors parmi ces influences, s'y revendiquent des Cure, des Nick Cave, des Sisters of Mercy. Un projet que le musicien avait à cœur depuis bien longtemps, puisque il est allé puiser dans ses propres compos à la guitare, dont certaines remontraient, selon ses dires, à son enfance. Donc c'est pour vous dire que ça lui trotte dans la tête depuis très longtemps. Une partie des compos de ce premier album ont d'ailleurs une première fois été enregistrées en 1988 sur un enregistreur 4 pistes. Et puis, ça s'était arrêté là. Il avait ensuite tenté de relancer le projet en 93 en enregistrant des nouvelles chansons avec son groupe de l'époque, Body and Blood. Là encore, ça s'était pas concrétisé et il aura fallu attendre en 2012 cette rencontre avec Steve Taylor pour retenter le coup. Une collaboration qui a donné lieu à de nouvelles expériences, de nouvelles expérimentation, des compos aussi qui sont venus un peu compléter ces chansons précédemment enregistrées, qui elles aussi ont été retravaillées pour finalement constituer l'essence de ce premier album intitulé When the Cold Truth Has Worn Its Miserable Welcome Out. C'est très très long à dire. C'est un album qui est plutôt incroyable. Alors d'abord, pour ces parties musicales qui sont très inspirées, qui sont très mélodieuses, où les arrangements sont soignés, et puis qui est incroyable aussi, mais surtout par la prouesse vocale de Phil Anselmo, qu'on retrouve ici dans un registre, pour ainsi dire, inédit, même si c'est vrai qu'à l'époque de Pantera, on avait pu en avoir un petit aperçu de ce côté un peu plus sensible à travers quelques ballades comme Cemetery Gate, Hollow par exemple, mais on n'en était pas du tout au point de cette prestation qu'il offre avec N Minor, qui est ici pleine de gravité, de mélancolie, de profondeur. C'est un Phil Anselmo presque fragile, repentant, qu'on découvre avec N Minor, et ça lui va extrêmement bien. À noter enfin que, outre cette atmosphère gothique qui domine le disque, il s'en dégage aussi des effluves bluesy. Ça donne un certain cachet à l'ensemble et puis ça nous rappelle qu'on est bel et bien dans la chaleur moite de la Nouvelle-Orléans. Voici un extrait de N Minor avec le sublime titre Mausoleums qui va rappeler quelques-uns des meilleurs titres de Nick Cave ou de Tom Waits. Voici tout de suite N Minor. Thank you. N minor tout en douceur sur Back FM avec le titre Mausoleums, extrait du premier album donc de N minor, ce nouveau projet de Phil Anselmo, un album qui s'appelle When the Cold Truth Has Worn It's Miserable Welcome Out, pardon pour mon anglais un peu laborieux, mais les bonnes âmes que vous êtes me pardonneront. En tout cas, c'est un très bel album que je vous conseille. Ça nous sort un petit peu de ce qu'on a l'habitude de voir avec Phil Anselmo et il le fait tellement bien que voilà, c'est un pur moment de plaisir que ce premier opus signé N minor. Revenons maintenant à une sortie du 28 août, un groupe qui fait un carton en ce moment, c'est le groupe Scissor qui a sorti l'album Si vis pacem parabellum. Ça me rappelle un groupe français ça, hein, qui a utilisé cette formule bien avant eux, un groupe de punk que beaucoup de gens adorent, qui était passé nous voir d'ailleurs au Café Charbon il y a quelques années. Mais bon, ça n'a rien à voir, la parenthèse étant refermée. Scissor, il faut que vous sachiez que c'est un groupe qui nous vient de Pretoria en Afrique du Sud, et ça c'est assez rare pour le souligner. Un groupe qui existe depuis 2002, qui a été créé entre autres par le chanteur-guitariste Sean Morgan et par le bassiste Dale Stewart. Et depuis 2003, le line-up du combo comprend également le batteur John Humphrey. Alors là on est sur du métal alternatif avec des accents hard rock et post-grunge. Les influences principales de Scissor sont Nirvana, Alice in Chains ou encore Deftones et Nine Inch Nails. Voilà, on a plein de bonnes influences pour ce groupe qui va commencer à faire parler de lui dès la sortie de son premier album qui s'appelle Disclaimer. Là on est très peu de temps après leur formation en 2002. On y retrouve un morceau qui s'appelle Broken que le groupe va réenregistrer 2 ans plus tard en featuring avec Emily, la chanteuse d'Evanescence qui explose à ce moment-là, et ça va devenir le premier succès commercial de Scissor. Du coup l'album suivant qui s'appelle Karma and Effect qui arrive en 2005, il va bénéficier d'une promotion extrêmement importante et Scissor va s'imposer un petit peu partout à travers la planète. Alors depuis ils ont sorti quelques disques, il y en a en tout 8 des albums studio, parmi lesquels outre Karma and Effect, j'ai envie de vous conseiller Isolate and Medicate qui date de 2014, qui contient notamment l'excellent titre Words as Weapon. Et puis il y avait aussi Poison the Parish en 2017 qui était leur dernier album en date et qui était très réussi. Donc le 28 août, Scissor faisait son retour dans les bacs avec le puissant Si vis pacem parabellum, enregistré à Nashville dans le Tennessee, avec une production signée du frontman Sean Morgan, qui a ensuite confié le mixage au talentueux Matt Hyde, dont je vous invite à consulter l'impressionnant curriculum vitae sur le net. Et donc Si vis pacem Parabellum, c'est le tout premier album de Scissor enregistré en compagnie d'un nouveau guitariste qui s'appelle Corey Lowery, une nouvelle recrue américaine pour le combo sud-coréen, qui donc pour Lowery a fait ses armes dans plusieurs formations dont Stock Mojo, Dark New Day, qui sont, moi j'aime beaucoup Stock Mojo, je vous conseille d'aller jeter une oreille si vous connaissez pas. Un nouveau renfort donc pour le groupe qu'on retrouve ici très en forme. Si vis pacem parabellum, c'est un album qui est percutant, qui navigue entre morceaux revendicatifs et chansons marquées par une forte mélancolie. Alors c'est vrai que Sean Morgan depuis fort longtemps il se bat contre les démons de la dépression et il utilise sa musique en fait comme exutoire à ce mal-être qui va parfois transformer en rage, d'autres fois en concentré d'émotion. C'est de tous ces sentiments qu'est fait Si vis pacem parabellum, à travers lequel le groupe va aborder des thèmes tels que les relations abusives, la souffrance, la dépression, le suicide, la mort, des sujets lourds mais malheureusement universels qui à un moment donné font forcément écho à l'histoire de chacun d'entre nous, ça c'est inévitable. Et Scissor signe donc un album qui est aussi réussi que poignant, dont voici sans plus tarder un extrait avec le morceau Beg. Seems you Bake de Caesar à l'instant sur Bike FM dans l'émission Check Me Load, un extrait de l'album Si Vis Pacem Parabellum paru le 28 août, dernier album en date donc pour le groupe de Pretoria, groupe que je vous invite à découvrir sur quelques-unes de ses œuvres. Ils ont fait des trucs vachement bien et je trouve qu'ils sont pas assez reconnus, les Caesar. Voilà, donc j'en ai un peu parlé tout à l'heure en début d'émission, du moins je l'ai souligné. Aujourd'hui, on est le 18 septembre, hein, ça ne vous a pas échappé, et on commémore les 50 ans de la disparition de Jimi Hendrix, qui, le 18 septembre 70, entrait au fameux Club des 27, où d'ailleurs il serait rejoint une quinzaine de jours plus tard par Janis Joplin. Et en cette année 70, alors que l'été tirait sa révérence, eh bien Jimi Hendrix entrait dans la légende du rock et laissait, malgré une carrière quand même relativement courte, un héritage extrêmement important. 50 ans plus tard, le mythe de Jimi Hendrix continue à fasciner et il était donc inconcevable de pas lui rendre hommage dans la rubrique Sortez Cover de ce jour. D'ailleurs, ça tombe bien, hasard du calendrier ou non, aujourd'hui sort Origins Volume 2, le nouvel album de reprise signé Ace Frehley, sur lequel eh bien, on trouve justement une revisite de Manic Depression de Jimi Hendrix. Et si Ace Frehley sévit désormais essentiellement en solo, c'est bien en tant que guitariste du groupe Kiss qu'il a connu la gloire, puisqu'il en a été le soliste depuis la création du groupe en 73 jusqu'en 1982, puis ensuite de 96 à 2002. Et donc le guitariste originaire du Bronx va d'ailleurs débuter sa carrière solo en parallèle de Kiss, hein, puisque ça va commencer dès 1978. Pour revenir à son actualité avec Origins Volume 2, c'est la deuxième fois que Ace Frehley va s'adonner à cet exercice de la cover. Une deuxième parenthèse récréative pour le guitariste qui se fait clairement plaisir en revisitant une sélection de morceaux classiques issus soit du répertoire rock, soit hard rock. On est tout à fait dans la droite lignée de Origins numéro 1, hein, qui était sorti en 2016. Sauf que là, au menu, c'est d'autres morceaux, hein, puisqu'on trouve du Led Zepp, du Deep Purple, du Beatles, du Stones, Cream, voilà, pour vous donner quelques exemples. Et quoi de mieux quand on s'éclate à faire des reprises que d'inviter quelques potes à partager ce petit moment de plaisir? C'est ce qu'a fait Ace Frehley, il s'est pas gêné, il a convié sa copine Lita Ford, le guitariste John Five, le chanteur de Cheap Trick, et puis aussi Bruce Kulick, son compère de Kiss. Il lui avait succédé à un moment donné, quelques temps après lui, hein, il était arrivé dans Kiss, et lui on l'entend dans la version de Manic Depression signé Hendrix, qu'on va écouter dans quelques instants. Manic Depression, dont la version originale, elle est pas toute jeune, hein, puisqu'elle date du 12 mai 67. C'est ce jour-là qu'est paru Are You Experienced, le tout premier album de Jimi Hendrix, qu'il a enregistré en compagnie des excellents Noel Reading à la basse et Mitch Mitchell à la batterie. Absolument cultissime ce premier album du Voodoo Child, qui est quintuple disque de platine aux États-Unis, contient quelques titres qui sont devenus des grands classiques du rock. Il fait partie de ces grands albums qu'il faut avoir écouté au moins une fois dans sa vie. Mais pour l'heure, voici donc un hommage à Jimi Hendrix, disparu il y a 50 ans aujourd'hui. Et on écoute Manic Depression, donc dans une version revue et corrigée par Ace Frehley, en featuring avec Bruce Kulick. Il s'agit d'un extrait de l'album de reprise Origins Volume 2, qui est paru aujourd'hui. Très bon week-end à vous, on se donne rendez-vous vendredi prochain, même heure, même station. En attendant, stay metal, stay rock'n'roll, salut à tous.